אני רוצה לרקוד.
לב אחד, אמיסיון דו קונסיסטואר ישראלית דה מרסיי. מרק מימון.
Bonsoir à tous, merci de nous recevoir comme chaque semaine à vos domiciles. Nous nous invitons chez vous comme tous les mercredis parce que nous sommes très bien, nous sommes très bien reçus comme tous les mercredis. Et aujourd'hui, j'ai un invité qui a un invité lui-même, d'accord ? Donc vous le connaissez, c'est mon ami, il est responsable du mouvement sioniste de France, David Selam. David, dans quelques minutes, je te laisserai la parole peut-être pour présenter notre invité, plutôt ton invité, monsieur Guy Miller.
Merci Marc. Oui, comme d'habitude, on a donc un invité de marque aujourd'hui, hein, qui est donc qui vient des États-Unis, Monsieur Guy Miller, qui fait un travail admirable, hein, à partir des États-Unis où il vit depuis à peu près
sept ans.
C'est un formidable soutien de l'État d'Israël et de nos communautés, je dis bien nos communautés, à la fois à France, mais à l'international, puisqu'il a des réseaux, ses propres réseaux. On me parle de centaines de milliers de followers, c'est ça, d'après oui. Voilà. Donc Guy Miller est déjà venu, on l'a déjà invité il y a quelques années. C'est son premier voyage aujourd'hui en Europe. Peut-être qu'après, d'ailleurs, il partira en Israël où il a des rendez-vous. Donc je disais que c'est Guy Miller est vraiment un ami de très longue date qui soutient l'État d'Israël et nos communautés à travers le monde. Aujourd'hui, il est là pour nous parler d'un sujet. Donc on va dire particulier ou général si on veut, c'est donc le monde, comment fonctionne le monde avec l'administration Biden. Et vous savez que aujourd'hui cette administration qui soutient l'État d'Israël malgré ça, mais cette administration qui s'est retirée d'un certain nombre de comment on dit d'événements mondiaux, voire même dans la région Moyen-Orientale. Il nous parlera de ça. Également les défis pour l'État d'Israël dans la région. Comme on sait que Israël a énormément de défis actuellement, le nord, le sud, l'est, l'Iran, l'Ukraine également, et puis la Russie, etc. Et puis les nouvelles élections qui ont amené la droite au pouvoir et qui va certainement rectifier un certain nombre de problèmes en Israël. Voilà. Donc je ne vais pas plus, juste en deux minutes sans le background de Guy Miller. Donc Guy Miller est économiste. Il est écrivain aussi. Il a écrit beaucoup de livres comme Israël raconté à ma fille, l'État à l'étoile jaune, survivre à Auschwitz, la révolution Trump ne fait que commencer. Après Trump, et puis son dernier livre qui fait vraiment un tabac aujourd'hui, c'est Après la démocratie, l'Amérique et le monde au temps de l'administration Biden. Voilà. Donc Monsieur Guy Miller vit aux USA, à Las Vegas, voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Il est marié, il a deux filles, c'est ça ?
Oui.
Voilà. Mais beaucoup le connaissent. Donc on va lui passer la parole tout de suite.
Avant de lui laisser la parole, on va quand même rappeler que tout à l'heure il est au centre de Montflègue à partir de 19h quand même pour une très belle conférence.
Oui. Tu fais bien, Marc, de le dire. Ce soir nous avons la conférence à 19h avec Guy au centre Flègue. Voilà, ceux qui veulent assister, ça va être très très intéressant. On a déjà beaucoup de monde. Il y aura un apéritif dînatoire et on vous demandera de téléphoner pour réserver d'ici ce soir au 06 61 64 08 83. Voilà, ou par mail r2inter@life.com. Voilà, merci. On passe tout de suite la parole, je pense, à Guy.
Alors, monsieur Guy Miller, bonjour et merci beaucoup d'être venu à la radio avant même d'aller au centre de Montflègue pour parler. Donc, moi, j'aimerais quand même préciser une chose, David, c'est que ce monsieur qui est à côté de nous n'est pas de religion juive.
Non.
Et il a un attachement pour le peuple juif, la terre d'Israël et l'État d'Israël, quelque chose qui est quand même incommensurable, qui est rarement entendu par un non-juif, et c'est courageux de votre part dire et de l'appliquer.
Merci beaucoup.
Donc, monsieur Guy Miller,
il n'est pas juif, mais j'ai l'habitude de dire, nos patriarches disent, il a une âme juive.
Mais sûrement.
Il a une âme juive.
J'ai pas le niveau de me permettre de dire, mais j'en suis certain. Comment va le monde, donc, par rapport à Israël, par rapport à monsieur Guy Miller ? Parce qu'en fait, c'est de ça que vous allez nous parler tout à l'heure.
Oui, je dirais que le monde ne va
pas bien du tout en ce moment. Et je dirais que l'administration Biden y est pour beaucoup, hélas. J'ai tendance à dire, quand les États-Unis ont un président fort, la paix avance dans le monde. Quand les États-Unis ont un président faible, la paix, la tranquillité reculent dans le monde. Et je dirais que là, les États-Unis ont un président qui est davantage que faible. Ça n'est pas beaucoup dit dans les grands médias français, par exemple, mais ça doit être dit. Et il y a un ensemble de décisions qui ont été prises par l'administration Biden dès son installation au pouvoir, qui représentent des dangers pour Israël et qui me mènent à considérer que ce n'est pas vraiment une administration amie d'Israël. Dès les premiers jours, l'administration Biden a dit « Nous voulons à nouveau nouer un accord avec l'Iran, le régime des Mollahs ». Et pour appâter, si je puis dire, le régime des Mollahs, l'administration Biden a décidé de relâcher une partie des sanctions contre le régime iranien qui avait été mis en place à l'époque de l'administration Trump. Et je dirais que ça a permis de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la République islamique d'Iran. Et cet argent est très largement utilisé par l'Iran depuis des années et des années pour financer des organisations terroristes. Et je dirais que le Hamas a reçu de l'argent, a reçu aussi des missiles, et tout cela a conduit aux attaques menées par le Hamas contre Israël au printemps 2021. Et je dirais que je crains que ces attaques ne soient qu'une répétition générale. Je pense qu'il y avait une volonté de voir s'il était possible, en tirant une grande quantité de missiles, de saturer le dôme de fer. Et donc cela pourrait mener à une guerre plus ample. J'ai eu une conversation hier avec mon ami Gilles William Golnadel, qui a eu une conversation récemment avec Benjamin Netanyahou, qui lui a dit qu'il craignait fortement pour cette raison. Deuxième décision qui me... Celle-là est très grave déjà. Bon, mais deuxième décision très négative prise par l'administration Biden dès le début. L'administration Biden a rétabli tous les crédits que les États-Unis donnaient à l'autorité palestinienne et que l'administration Trump avait suspendu. L'administration Trump avait suspendu ces crédits parce que l'autorité palestinienne ne voulait pas renoncer à financer le terrorisme et à traiter les terroristes comme des héros. Et je dirais que l'administration Biden, elle a rétabli le financement de l'autorité palestinienne sans lui demander quoi que ce soit concernant le terrorisme, ce qui me paraît absolument délétère. Et je pourrais rajouter que l'administration Biden a dit, après les accords d'Abraham, puisque les accords d'Abraham ont été passés peu de temps avant les élections, nous sommes partisans de la solution à deux États et nous sommes partisans de donner un État à l'autorité palestinienne. Je considère l'autorité palestinienne comme une entité terroriste parce que de facto, on ne le dit pas assez en France, c'est une entité terroriste. À partir du moment où vous financez le terrorisme, où vous incitez à la haine et où vous récompensez les terroristes, et que à partir du moment où vous considérez que les terroristes qui ont été tués sont des shahids, c'est-à-dire des martyrs de l'islam, vous êtes une organisation terroriste. Et donc, de facto, l'administration Biden finance à nouveau une organisation terroriste. Les pays européens la financent aussi, mais bon, les États-Unis, sous Trump, avaient arrêté ce financement.
Hier, il y a eu des élections aux États-Unis au niveau de leur Sénat. Est-ce que le fait que les Républicains soient légèrement passés devant, est-ce que ça va changer quelque chose ou pas ?
Je ne suis pas certain que cela va changer quelque chose. Ce qui aurait changé quelque chose, cela aurait été une victoire très nette des Républicains. Et ce qui aurait changé vraiment les choses, c'est que les Républicains aient la majorité aussi bien à la Chambre des représentants qu'au Sénat. Là, il y aurait une légère majorité républicaine apparemment à la Chambre des représentants, mais il n'est pas certain qu'il y ait une majorité au Sénat. Et dans le livre dont David a parlé il y a quelques instants, j'explique que les démocrates recourent massivement à la fraude et à des méthodes douteuses dans les élections. Et je dirais que ça me paraît extrêmement grave parce que ça peut remettre en question la fiabilité du suffrage universel, le droit de vote et la démocratie telle qu'elle fonctionne.
Il y a une petite minute parce qu'il y a un passage publicitaire d'une petite minute, le temps de reprendre notre respiration. On se retrouve dans une minute sur donc les ondes de Radio GM pour l'émission La Vérade avec Monsieur Guy Millia. Rebonsoir, donc on reprend l'émission donc en direct avec l'émission La Vérade et Monsieur Guy Millière, un monsieur passionnant, intéressant, avec donc toute sa biographie qu'on a commencé à parler en début d'émission. Monsieur Millière, donc vous parlez des relations avec Biden et l'État d'Israël qui sont pas l'air d'être des relations de courtoisie ni d'amitié profonde. Une question me vient. Monsieur Trump avait donc délocalisé l'ambassade à Jérusalem. Est-ce que dans les mauvaises nouvelles que vous venez de nous dire, la possibilité de redéplacer l'ambassade de Jérusalem fait partie du programme Biden?
Non, je ne pense pas qu'ils iront jusque-là. Ah. Je pense que l'ambassade va rester à Jérusalem, mais il y a eu plusieurs fois de la part de l'administration Biden une volonté de faire de l'ancien consulat américain à Jérusalem, un consulat qui était en activité avant le déplacement de l'ambassade. Il y avait une volonté de l'administration Biden de déplacer tout ce qui concerne les affaires palestiniennes, entre guillemets, dans l'ancien consulat et de faire de ce consulat une quasi-ambassade des États-Unis vis-à-vis de l'autorité palestinienne. Le gouvernement israélien a refusé avec indignation et je dirais qu'il avait toutes les raisons de refuser avec indignation. Pour ce qui me concerne, je considère que l'autorité palestinienne est une entité terroriste, je l'ai déjà dit, mais cette entité terroriste, elle a son siège à Ramallah et pas du tout dans Jérusalem. Et donc lui donner une forme d'ambassade des États-Unis à l'intérieur de Jérusalem me paraissait une décision très perverse et très pernicieuse, d'autant plus que ce consulat se situe dans ce que les anti-israéliens appellent Jérusalem Ouest. Oui. Donc ils l'ont même pas placé. C'est même pas quelque chose qui est dans Jérusalem oui. Est, entre guillemets, pour ce qui me concerne. Alors, je connais ni Jérusalem Est, ni Jérusalem Ouest. Je connais Jérusalem, capitale unifiée d'Israël.
Bravo.
Alors, David nous fait une deuxième surprise, puisque nous avons par téléphone Moshe Cohen.
Oui, qui normalement devait être en ligne, là.
Oui, Moshe ?
Moshe ?
Allô ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Marc Mehoun, l'émission La Vérade du Consort. Je te passe David Selam, ton ami, et merci de ton intervention.
Moshe, bonjour. Merci de nous dire quelques mots sur les élections israéliennes. Je rappelle que tu es en plein Milouim. On dira pas à quelle frontière, mais tu es en plein Milouim et que tu as passé une nuit où tu es ce matin donc en train de récupérer. Voilà. Juste quelques mots. On est avec Guy Millière, que tu connais certainement, qui est un soutien à l'État d'Israël et un soutien aux communautés. Et c'est quelqu'un également qui intervient. Il vit aux États-Unis. Il intervient aussi dans des associations extrêmement importantes. Il est d'ailleurs membre exécutif du Gaystone Institute de New York. Il est également membre de l'American Freedom Alliance de Los Angeles. Voilà, donc c'est quelqu'un qui vraiment fait un travail admirable. Voilà. À toi, si tu peux nous dire quelques mots sur les dernières élections israéliennes.
À la frontière nord d'Israël, et bien entendu en Israël, tout est mélangé, tout le monde parle politique, surtout que le dernier mandat qui a été obtenu par le Likoud a été donné en majorité par les soldats. Donc les résultats sont clairs, il y a 32 pour le Likoud, 14 pour le sionisme religieux, 11 pour les orthodoxes séfarades et 7 pour les orthodoxes ashkénazes. Et actuellement, le président, il y a le président Tetzel qui doit donner le mandat au prochain candidat pour faire le gouvernement. Pour l'instant, il n'y a que 28 députés qui soutiennent Yair Lapid, c'est-à-dire 24 de Yesh Atid et 4 du Parti Travailliste. Tous les autres s'abstiennent, c'est-à-dire Lieberman, Benny Gantz et le Parti Arabe s'abstiennent. Allô?
Oui. On t'écoute, Moshe. On t'écoute.
Vous m'entendez ou pas?
Oui.
Il faudrait se rapprocher du téléphone, Moshe.
Oui, alors, actuellement. Comment?
Voilà, c'est très bien, là, c'est mieux.
m'entendez là ou pas?
Oui.
Oui. Alors, je disais que pour l'instant, les partis, le gouvernement va forcément, certainement être créé très prochainement, à mon avis, dans une quinzaine de jours, trois semaines maximum. Parce qu'aujourd'hui seulement, les chiffres officiels ont été repris dans les États d'Israël. Et à partir d'aujourd'hui ou demain, ils commencent à recevoir les partis politiques. Bon, c'est pas un secret que la droite a gagné 5 députés contre 56. Et ben, effectivement, il y a un double sentiment, un sentiment de joie pour les gagnants et un sentiment de perte, de profond, profonde douleur dans certaines parties de gauche qui parlent même de quitter Israël comme à chaque fois, comme en 80, quand depuis cette année aussi, les gens disaient on va quitter le pays, c'est un grand scandale. Mais il y a une partie des gens de gauche aussi, des entreprises qui c'est la volonté du peuple, donc ben, c'est la majorité. Si vous voulez, le gouvernement va se faire, alors il y a bien entendu un sens réticent quant à la droite. L'Igoud, parce qu'il faut comprendre que pour la première fois de l'histoire de l'élection, l'Igoud, c'est le parti le plus à gauche de la droite. C'est intéressant. Donc, si vous voulez, le prochain premier ministre, Benjamin Netanyahou, lui, il a une tendance à essayer de faire chose dans le respect et être
Moshé, je voulais te dire, comme on a 5 minutes, pas plus, de réseau, je voulais te dire, tu as une idée des ministres qui pourraient être maintenant nommés ou pas, en fonction de cette répartition ou pas, rapidement.
J'ai pas entendu la question.
Je te disais, est-ce que tu as une idée aujourd'hui des ministres qui pourraient être nommés par Bibi? Et à quel secteur, à quel département? Est-ce que tu as une idée déjà ou pas? Rapidement.
Non, alors, d'abord, le gouvernement, les problèmes ont commencé maintenant. Ce que Netanyahou a dit, c'est qu'il garderait les partis les ministères les plus importants, qui sont la sécurité, les finances et le ministère des Affaires étrangères. Mais étant donné qu'il y a les partis, comme les partis chasse, qui est très important, il y en a qui disent que Ari Dery, le président du parti chasse, voudrait le ministère des Finances, comme il y en a qui disent que Bezalel Smotrich voudrait la défense, mais à mon avis, ces partis-là, ces ministères qui sont très importants, vont rester au Likoud. C'est un peu mon évasion, comme de tout temps, le Likoud est toujours contrôle le gouvernement dans les trois ministères très importants qui sont le ministère des Affaires étrangères, les Finances, et la défense. Ceci dit, on s'attend à tout. Oui.
Moshé, je pense qu'on aura l'occasion de t'avoir en direct à Jérusalem pour nous parler de ces questions. Quand ils seront d'ailleurs nommés les ministres, par exemple, hein, juste, on va se séparer sans vraiment remercier, vous dire que vous faites un excellent travail aux frontières, vous êtes ce qu'on appelle les gardiens d'Israël, et pour ça, Béaz Lacha, et bravo à tous, dommage qu'on n'a pas pu mettre le haut-parleur avec ta gvoutsa, enfin des soldats aux alentours,
voilà,
mais...
Voilà. Juste un dernier point, je vais proposer un petit marseillais ici, qui est dans l'unité d'élite, qui est par hasard le petit-fils de l'ancien président du consistoire, un certain Joe Aziza. Que vous connaissez,
qu'on connaît tous,
moi,
absolument.
Le monde est petit, et le gosse, qui a une vingtaine d'années, est dans une unité d'élite ici.
Bravo.
C'est ce que je voulais dire. Bonne chance et merci, à bientôt.
Et vous aussi, bonne chance au gardien d'Israël.
Merci,
Moshé,
et bonne récupération. Bonne récupération, bonne journée. Voilà, Monsieur Milliard, donc on a eu Moshé Cohen qui est à la frontière, laquelle on ne la dira pas évidemment, pour s'occuper de la protection de l'État d'Israël.
On a encore du temps.
Monsieur Milliard, je veux dire, on a abordé le problème de Biden, et tout à l'heure au centre de Montflec, vous allez vraiment le développer. Maintenant, il est normal aussi de vous poser la question, que pouvez-vous nous dire des relations entre la France et Israël à travers le gouvernement actuel? Les gouvernements, puisqu'on a un nouveau gouvernement en Israël qui va s'installer, Bibi Netanyahou et Monsieur Macron. Est-ce que ça va matcher ou pas?
Je dois dire que je suis très heureux que Benjamin Netanyahou revienne au pouvoir et je pense qu'Israël va enfin avoir un gouvernement fort et stable après plusieurs années d'instabilité et je pense que c'est une excellente chose dans le contexte que j'ai expliqué il y a quelques instants et que j'expliquerai plus amplement ce soir. Pour ce qui concerne les relations avec la France, je dirais que la France a toujours eu une politique politique relativement anti-israélienne, pas nettement anti-israélienne, à certains moments nettement anti-israélienne, mais pas très pro-israélienne. La France a toujours défendu l'idée de la solution à deux États et la nécessité de donner un État à l'autorité palestinienne, donc de créer un État terroriste au flanc d'Israël et de revenir aux frontières de 1967 qui n'ont jamais été des frontières puisque ce sont les lignes d'armistice de 1949 et l'armée israélienne considère que ces lignes sont indéfendables militairement. La France n'en tient aucun compte. Donc je dirais que Emmanuel Macron est proche des positions de l'administration Biden. Je pense qu'il est éloigné des positions de Benjamin Netanyahou. Je dirais d'ailleurs que quand Benjamin Netanyahou est venu à Paris, Emmanuel Macron était relativement froid à son égard. Emmanuel Macron a même eu tendance à lui faire parfois quelques remontrances. Emmanuel Macron est beaucoup plus chaleureux vis-à-vis de Mahmoud Abbas, puisque à chaque fois que Mahmoud Abbas vient à l'Élysée, il l'embrasse. Donc c'est pas quelque chose qu'il ferait avec Benjamin Netanyahou. Mais Benjamin Netanyahou est assez fort pour résister aux pressions de la France et aux pressions d'Emmanuel Macron.
Alors une question, qui sont les amis d'Israël ?
Je dirais que les amis d'Israël, les principaux amis...
À part vous, évidemment. Hein.
Non, mais les principaux amis d'Israël, je dirais que c'était pendant très longtemps les États-Unis. Et maintenant, je dirais que c'est essentiellement les républicains américains, puisque le Parti démocrate a tendance à glisser vers l'extrême gauche. Et l'extrême gauche est toujours, entre guillemets, pro-palestinienne et relativement peu pro-israélienne.
Une dernière question peut-être, puisque le temps passe vite avec vous, et malheureusement, parce qu'on a envie de vous écouter, de vous réécouter, donc on va faire ça, on va voir ça tout à l'heure. Au
ceux qui viendront ce soir pourront m'écouter plus longuement.
Une question, est-ce que le conflit entre l'Ukraine et la Russie a une incidence vis-à-vis de l'État d'Israël ?
Je dirais que Israël adopte une position de prudence. Je dirais, bon, pour ce qui me concerne, je considère que les valeurs éthiques sont du côté de l'Ukraine, mais je comprends que Israël adopte cette position. Israël est un petit pays, c'est un pays que j'aime profondément, mais dans les faits, c'est un petit pays et Israël est menacé par l'Iran, qui est un allié de la Russie, ça se voit de plus en plus nettement. Mmh. Et la Russie a laissé Israël attaquer les positions des gardiens de la révolution iranien en Syrie. Et je dirais que Israël ne peut pas se permettre concrètement de fâcher Vladimir Poutine sans risquer d'en subir de très lourdes conséquences. Donc je dirais que quand bien même je ne doute pas que les valeurs éthiques israéliennes portent Israël vers l'Ukraine, je pense qu'Israël a toutes les raisons d'adopter une attitude de prudence et de relative neutralité. Israël quand même aide l'Ukraine sur le plan médical. Et je dirais que c'est quelque chose de noble et c'est très bien qu'Israël le fasse.
C'est la valeur du peuple juif, je veux dire, la santé passe avant tout, quelle que soit la couleur de la peau ou l'origine de la personne. Je veux dire, puisque en Israël, on parlait du Magen David Adom, c'est une association qui va soigner, malheureusement, des terroristes à qui on peut sauver la vie. Donc c'est une éthique que l'on a et qu'on ne modifiera jamais. Je ne sais pas si on a encore du temps, Amy, pour l'émission. Bon, malheureusement, elle est finie. Alors, regardez, je vous donne tous rendez-vous tout à l'heure au centre Edmond Fleg à partir de 19h. Monsieur Guy Millière, il faut l'écouter. Et puis, cette soirée, je pense qu'elle va être assez longue et les gens pourront échanger avec vous et vous pourrez leur dédicacer votre livre.
Oui, tout à fait. Je répondrai à toutes les questions qui seront posées.
Exactement.
Et je dédicacerai mon livre qui leur permettra de comprendre exactement ce qui se passe présentement aux États-Unis et qui n'est jamais dit dans les grands médias.
Merci beaucoup. Merci David. Un mot de la fin peut-être, David ?
Merci à vous. Je crois que vous avez entendu, c'est que nous vous attendons ce soir nombreux. Vous verrez donc Guy Millière, vous verrez pas le temps passer finalement. Et nous vous attendons nombreux. Et déjà nous prévoyons pour le mois prochain également notre intervenant qui viendra d'Israël directement. Voilà. Voilà. À ce soir. 19h donc, téléphonez à la radio si vous n'avez pas le téléphone pour faire vos réservations. Merci à tous, merci à Guy Millière, encore une fois bravo et à ce soir.
Merci à tous, merci à vous toutes, à vous tous, à tout à l'heure si Dieu veut. Et merci Monsieur Guimia encore pour votre prestation qui est absolument beaucoup. Fabuleuse. Merci David pour ton invité. À très bientôt, à la semaine prochaine, au revoir.
La Vérade, émission du Consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.